113, strophe 2. Strophe 1 et 3.
Prenons la lecture à partir du verset 11. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu, qui appelle toutes choses à l'existence, et devant le Christ Jésus, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle, le bienheureux et le seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu, ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner libéraux, s'amassant comme trésor, un bon fondement pour l'avenir afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes, et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns faisant profession se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi.
Ce passage que nous avons lu, ce passage qui était au cœur de nos frères ici, pour méditer surtout ce passage, il commence « Mets-toi, mets-toi ». Alors ça parle à chacun de nous, « Mets-toi, à toi et à moi ». Alors le « mets », c'est quelque chose en contraste. On contraste avec ce qui a été dit avant. On contraste avec ceux qui cherchent autre chose. On contraste avec ceux qui a été dit, qui sont tombés dans la tentation et dans un piège. Satan, il veut nous tenter et nous faire tomber dans un piège. Et il y en a plein de pièges. Il y a notre cœur, il peut très vite se tromper et nous guider dans un chemin qui va, qu'est-ce qu'on avait à lire, dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La ruine et la perdition, ça ne veut pas dire que c'est la perte du salut éternel ici. C'est la perdition on a parlé d'un gain éternel, c'est la perdition qu'on a ramassé les trésors dans les cieux, c'est la qu'on a perdu cette bénédiction. Naturellement, ceux qui sont croyants, ils seront au ciel. Personne ne peut les ôter de la main du Seigneur et de la main du Père. Mais ils ont perdu tout, ils seront là avec les mains vides. Que des feuilles, pas de fruits. Alors, et Satan, il veut nous guider dans un chemin de perdition comme cela. Et puis, dans un piège. Et puis, car quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Tout à l'heure, on a parlé de Judas. Naturellement, Judas, c'est un exemple extrême. Parce que lui, il n'est pas croyant. Mais ici, je dirais... On parle plutôt de ceux qui ont perdu. Ils sont égarés de la foi. Ils sont détournés de la foi. Ils se sont perdus dans ce chemin droit. Ils ont fait naufrage concernant la foi. Alors après, ils sont sauvés comme à travers du feu. Ils ont perdu tout. Mais maintenant, on contraste avec ceux qui perdent cette, qui se sont fait, qui sont écartés et qui sont dans un piège. Il y a maintenant ce mets-toi, mets-toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Il faut fuir ces choses qui peuvent nous faire un piège, qui peuvent nous faire écarter. Fuir ces choses mondaines, fuir juste, par exemple, l'amour pour l'argent, de vouloir devenir riche, vouloir faire quelque chose, être quelque chose dans ce monde. Mais toi, ô homme de Dieu, ô homme de Dieu, c'est peut-être on peut mieux expliquer qu'est-ce que ça veut dire, homme de Dieu, si d'abord on regarde qu'est-ce que c'est le contraire. Le contraire, c'est un homme du monde, quelqu'un qui n'a que ses occupations, du monde, qui vit que pour ce monde. Un homme du monde, alors il est bien estimé dans ce monde. Il a fait du succès, il est... Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'a pas de valeur éternelle. Mais un homme de Dieu, il n'est pas bien estimé peut-être dans ce monde, parce qu'il ne cherche pas les choses de ce monde. Il cherche les choses qui sont en haut, les choses éternelles, les choses célestes. Sa patrie est dans le ciel. Il est un homme qui caractérise qu'il vit avec Dieu. C'est un homme de Dieu. Par exemple, Abraham, il a été appelé prince. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. C'est le monde autour de lui qui a vu que c'est quelqu'un qui vivait avec Dieu et qui était un ambassadeur de Dieu pour ici, dans là où Dieu il a placé. Mais toi, ô homme de Dieu, à nous, si nous avons donc cette nature de Dieu, alors nous devons être des hommes et des femmes de Dieu. Nous devons manifester de quoi nous sommes occupés, que c'est que nous sommes en relation avec Dieu et c'est lui qui nous guide et qui nous, et nous conduit et c'est de lui que nous parlons et c'est de lui que nous, nous sommes un témoignage.
Donc on a souligné que « mets-toi », ça s'adresse à chacun d'entre nous, c'est personnel. Et on peut dire qu'avec cette expression, ça montre que le chrétien, il est comme un poisson qui remonte le courant. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse entraîner par la foule. Peut-être que la plupart des hommes et des femmes qui nous entourent, avec lesquels nous vivons, sont attirés et entraînés par les choses, les convoitises de ce monde. Mais mets-toi, homme de Dieu. Même si tous suivent cette voie-là, toi ne le fais pas. Et ne regarde pas, ne compte pas combien il y en a qui vont dans telle ou telle direction. Mets-toi. Fuis ces choses. Donc c'est un appel personnel et c'est... Nous sommes invités, même plus qu'invités, nous sommes interpellés pour ne pas suivre le courant qui nous emmène loin de Dieu et des pensées de Dieu. Et donc, ô homme de Dieu, effectivement, comme il vient d'être dit, l'homme de Dieu, c'est celui qui représente Dieu sur la terre. Et il y a ces verbes « fuit »,« poursuit », combat saisi. Donc les choses que nous avons vues ce matin, il faut les fuir. Et ce n'est pas très glorieux de fuir. Celui qui fuit, voilà, ce n'est pas quelque chose de glorieux. Mais il faut être conscient des dangers. Et quand les dangers sont forts et que nous sommes faibles nous-mêmes, il ne faut pas, on pourrait dire, jouer avec le feu. Mais il faut fuir. Dans la parole, parfois il est question de résister et parfois il est question de fuir. Devant le diable, je crois que c'est Jacques 5 et 1 Pierre 4, ou l'inverse, Jacques 4 et 1 Pierre 5, il est dit « résistez au diable et il s'enfuira de vous ». Il ne faut pas craindre le diable, il faut résister au diable et lui, il s'enfuira de nous. Mais il y a des convoitises et des pièges où nous sommes appelés à fuir. Et ici, il s'agit bien de fuir ces choses. Donc ne pas jouer avec le feu. Mais la vie du chrétien, ce n'est pas seulement de fuir, mais c'est aussi de poursuivre. Et il y a des choses, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit, qu'il faut poursuivre, c'est-à-dire qu'il faut, je crois qu'on pourrait presque le traduire par les chasser. C'est-à-dire les discerner et tout faire pour les atteindre, pour les saisir, pour les attraper. Poursuivre ces choses, ça nous montre l'aspect positif de la vie chrétienne. Il y a des choses à fuir, mais il y a des choses à poursuivre.
Juste une remarque sur le terme « ô homme de Dieu ». Si nous regardons dans 1 Timothée 2, au verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Et la note nous dit que c'est l'homme en contraste avec la femme. Mais dans le verset 11 du chapitre 6, « Mets-toi, ô homme de Dieu », dans le grec, il ne s'agit pas de l'homme en contraste avec la femme, mais cela s'applique aussi bien à un homme qu'à une femme, c'est-à-dire une croyante peut avoir les mêmes caractéristiques qu'un homme de Dieu.
Fuir. Fuir tout ce qui est dit dans les versets précédents, lié aux richesses. Fuir les richesses de ce monde. On a un autre « fuis » dans le 2 Timothée 2, verset 22. « Fuis les convoitises de la jeunesse. » Fuir les convoitises de la jeunesse. C'est-à-dire, dès qu'on sent une convoitise s'approcher de nous,
tout de suite réagir, ne pas laisser passer. Et puis, je cite simplement, fuyez l'idolâtrie, dans 1 Corinthiens 11, je crois, fuyez l'idolâtrie, et 1 Corinthiens 6, fuyez la fornication. Il y a des choses, on ne peut pas jouer avec. C'est trop solennel, c'est trop lourd de conséquences. Fuyez les convoitises de la jeunesse, fuyez l'idolâtrie, fuyez la fornication, et ici, fuir toutes ces richesses injustes dans lesquelles nous avons simplement à les recevoir de la part de Dieu.
Oui, on peut quand même lire ces passages qui sont donnés, que notre frère Hervé vient de citer. C'est d'abord 1 Corinthiens 6, au milieu du verset 17. Fuyez la fornication. Puis 1 Corinthiens 10, au verset 14, fuyez l'idolâtrie. L'exercice, il y a toujours un sens moral que Dieu veut nous donner dans sa parole. Et peut-être qu'il nous faudrait simplement citer, pour notre jeunesse qui est ici, mais aussi pour chacun d'entre nous, ce que la parole de Dieu dit clairement. Il y a d'abord un côté négatif. Le côté négatif, et notre frère Eric a pu dire, bien voilà, fuir, ça pourrait être le synonyme d'une lâcheté, d'un manque de courage. Mais la parole de Dieu, elle est très claire, il faut d'abord fuir avant de poursuivre. Et j'aimerais citer deux autres passages de la parole de Dieu en rapport avec cela, c'est Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er, la fin du verset 16. Cessez de mal faire, apprenez à bien faire. Un deuxième passage qui est cité deux fois, c'est dans le livre des psaumes, ça doit être au psaume 34. Psaume 37 déjà. Psaume 37 et ensuite le psaume 34. Psaume 37, verset 27. Retire-toi du mal et fais le bien. Et dans le psaume 34, verset 14, retire-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Donc il y a d'abord un côté négatif, c'est le propos de Dieu qu'on sache se séparer immédiatement de tout ce qui peut déshonorer Dieu et qui peut être une source de mal. Peut-être qu'il faut quand même simplement dire, on donnera peut-être quand même un exemple en rapport avec la fornication. Mais déjà, si nous regardons à ce qui est donné ici, et nos frères y ont déjà insisté, ce « mets-toi », c'est en contraste avec ce qui précédait. Et ce qui précédait, c'était le désir d'obtenir quelque chose par soi-même. C'était le côté de l'amour de l'argent. Et quand il est dit « fuyez l'idolâtrie », eh bien, si nous faisons attention à ce qui est dit dans Éphésiens 5, la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, eh bien, la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Et puis, peut-être simplement ce sujet, même si ce n'est pas le sujet initial, j'ai été amené les jours précédents à le dire à des parents d'une famille chrétienne. C'est en rapport avec Joseph, où il est dit « fuyez la fornication ». Et on donnera simplement à cet égard une pensée à ce sujet-là. C'est Genèse chapitre 39, au verset 7, « Il arriva après ces choses que la femme de son Seigneur, le Seigneur de Joseph, leva ses yeux sur Joseph et elle dit, « Couche avec moi. » Et il refusa. Et quelle est la raison de ce refus? Bien simplement, pour ne pas être trop long, c'est la fin du verset 9. « Et comment ferai-je ce grand mal et pécherai-je contre Dieu ?» Voilà quelle était la détermination de Joseph alors qu'il était sollicité continuellement, jour après jour, pour être tenté. Et la parole de Dieu nous dit que nous pouvons être tentés de tant de manières, mais il y a quelqu'un qui est à même de nous secourir dans nos tentations, c'est le Seigneur, si nous crions à lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph lorsqu'il y a cette sollicitation? Eh bien, il est dit au verset 12, « Il laissa son vêtement dans sa main lorsqu'il est encore sollicité et s'enfuit et sortit dehors. » Il s'enfuit. Et ce que j'aimerais placer sur nos cœurs, c'est que la sécurité est dans la fuite. C'est bien cela? La sécurité est dans la fuite. Eh bien, c'est la même chose quant à tout ce qui peut aujourd'hui être placé devant nos cœurs pour nous tenter de tant de manières et pour nous solliciter de tant de manières. Il nous faut nous enfuir de ces choses qui peuvent si facilement nous poursuivre. Eh oui. Puis les choses que nous devrions poursuivre, bien malheureusement, nous les recherchons bien trop. Nous ne les recherchons pas et voilà, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Alors, mets-toi. Et alors, après, sera placé devant nous six choses qui sont toutes les unes et les autres comme un tout. Poursuivre la justice et la justice pratique, la piété, qui est avec le contentement qui est un grand gain, la foi où on jouit des choses de Dieu, ensuite l'amour, alors on y viendra peut-être, l'amour qui devrait être le mobile de nos cœurs pour que nous soyons délivrés de tout ce qui peut nous solliciter, et peut-être qu'il nous faut avoir dans cet amour pratique, et peut-être qu'on peut simplement le lire. Il y a 14 choses qui nous sont données dans 1 Corinthiens 13. On va peut-être le lire. L'amour, avec ses plusieurs manifestations. 1 Corinthiens 13, au verset 4. L'amour, 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. On peut insister sur ce point-là qui est donné ici. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Nous avons 14 mentions de 14 compléments de l'amour ici qui nous sont donnés, une double plénitude, et c'est quelque chose qui devrait être dans notre vie pratique davantage recherché. Voilà ce que l'Esprit de Dieu veut placer encore devant nous cet après-midi, avec ensuite la patience et la douceur d'esprit, ces 6 compléments, et qui nous montrent que nous sommes loin du parfait modèle qu'a été le Seigneur Jésus, qui nous montre ainsi dans ces 6 caractères ce que le Seigneur Jésus a été en perfection sur la terre. Et considérant ainsi ce modèle béni, suivons ses traces pour le glorifier et l'honorer.
Donc ce verset nous occupe donc principalement de ce que nous devons poursuivre. La justice, alors on l'a déjà dit, il s'agit de justice pratique, c'est assez frappant que
dans 2 Timothée 2 aussi, quand il s'agit de poursuivre, 2 Timothée 2, verset 22, il s'agit, la justice est aussi en premier, et puis dans les armes, on a la cuirasse de la justice qui vient dans les premiers éléments en Éphésiens 6. Donc, mais on comprend pourquoi il faut la justice pratique, sinon s'il n'y a pas la justice pratique, c'est la négation de toute vie chrétienne réelle. Bon, piété, c'est on l'a déjà dit, crainte de Dieu et confiance, mais ça implique des relations avec Dieu. Ces relations où il y a la crainte et la confiance, mais c'est ça, il y a une relation vivante. Et ça, une relation vivante permanente, individuelle, mais dans la famille aussi. Bon, la foi. Oui, c'est la foi qui compte sur Dieu, qui sait qu'il intervient, qui sait qu'il guide, qu'il peut tout. Donc c'est pour ça que la foi s'appuie sur l'invisible, alors que justement ceux qui s'égarent, ils veulent des gains concrets, ils veulent du visible, ils veulent des richesses. Donc c'est la foi qui a cette certitude dans les interventions de Dieu. L'amour, on en a déjà longuement parlé. Patience. Mais alors la patience, pourquoi la patience? Parce que Dieu... d'abord, Dieu lui-même use de patience. Ensuite, il n'opère pas tout de suite, même quand nous prions, nous supplions, il répond, mais très souvent, il répond pas tout de suite. Et il exerce la foi pour savoir si on va attendre jusqu'à ce que lui intervienne réellement. Et puis la douceur d'esprit. La douceur d'esprit, elle est aussi liée au fait d'attendre les interventions de Dieu. S'il y a une violence d'esprit, c'est parce qu'on est peut-être fâché, irrité, qu'on voudrait imposer que les choses se passent comme on veut. Ou soit dites ou faites comme on veut, mais c'est Dieu qui opère. Il faut compter sur lui et non pas sur ses propres forces pour opérer. Alors, tout ça se combine dans combat, le bon combat de la foi. C'est un petit peu différent de Timothée 4, j'ai combattu le bon combat. Quand il dit en 2 Timothée 4 « J'ai combattu le bon combat », c'est un peu un résumé de sa course. Il est en prison, il donne ses dernières volontés à Timothée. Et on aurait pu douter qu'il aille agi de la bonne manière puisqu'il était en prison. Et lui, il dit « Non, soyez tranquille, le combat que j'ai combattu, c'est le bon combat, je ne me suis pas trompé. Et j'ai beau être en prison, c'est bien de cette manière-là qu'il faut combattre. Mais le bon combat de la foi, c'est un petit peu différent, dans le sens que justement, Paul n'est pas en prison à ce moment-là. Il fait pas son testament final, mais il exhorte et alors on voit que même si on compte sur Dieu, même si on est patient, même si on a de la foi, il apparaît qu'il faut combattre. C'est-à-dire, mais alors, bien sûr, le combat, il est encore dans la dépendance, il est encore par la force du Seigneur, il n'est pas dans nos propres forces, mais il faut combattre. Et il ne faut pas, à cet égard, il ne faut pas laisser faire. C'était le grand reproche qui est fait à l'une des... à Thyatire, je crois, dans Apocalypse 2, j'ai contre toi que tu laisses faire. Alors non, on est dans un monde où le péché domine, partout le mensonge, et bien on combat. Et parce qu'il y a un ennemi qui cherche à faire du mal, toutes sortes de mal. Alors est-ce qu'on... Mais inversement, il ne faut pas uniquement être occupé du mal de son, en le combattant, il y a le saisir la vie éternelle. Alors on s'aperçoit que on a ce qu'on a, ce dont on a à s'occuper, ce qui est notre trésor par excellence, c'est cette vie éternelle qui... Elle a deux côtés, le côté futur, puis le côté présent qu'on peut en jouir déjà maintenant. Mais on jouit des choses qui ont le plus de valeur parce que c'est les choses éternelles.
À propos de poursuivre la justice, je voudrais citer... dans le psaume 45, qui est un psaume messianique. Psaume 45, verset 7. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et ce verset, nous le retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, verset 8. Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, est au siècle des siècles, c'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Poursuivre la justice, c'est suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été appelé le juste.
Donc on souligne encore ces verbes, fuir, poursuivre, combattre, saisir. Donc j'insiste sur le fait que dans combattre, ça sous-entend que autour de nous, tout est contraire. Et nous avons besoin d'énergie pour faire face à ce qui est contraire et qui est autour de nous. Le bon combat de la foi. Il y a ces choses effectivement invisibles que l'on saisit par la foi, et aussi dans l'expression « la foi », il y a le contenu de ce qu'on croit, la vérité, la révélation de Dieu que l'on saisit, que l'on comprend par la foi. Et c'est un ensemble, il y a cette révélation merveilleuse de Dieu, nous la saisissons par la foi. Elle est en relation avec des choses invisibles et de s'en occuper, ça entraîne un combat. Quand il est question de combat, c'est notre frère allemand Arend Remmers qui l'explique. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots. C'est le vocabulaire guerrier, faire la guerre. Et parfois, c'est plutôt le vocabulaire du sportif qui combat dans l'arène, qui fait la compétition à la course. Et là, il dit que c'est plutôt la compétition dans la course, Tandis que dans la même expression, au verset 19, fin du verset 18 plutôt du chapitre 1, combat, le bon combat, ça c'est plutôt le vocabulaire de la guerre. Mais il y a les deux aspects. Et saisis la vie éternelle. Et Charles l'a mentionné, la vie éternelle, il y a deux aspects dans la vie éternelle. Il y a l'aspect que nous avons déjà la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, nous dit l'apôtre Jean clairement. Et il y a aussi un aspect à venir, futur, où nous jouirons, quand nous serons au ciel, nous pourrons jouir pleinement de cette vie éternelle. Alors parfois, il y a l'aspect futur qui est présenté, parfois l'aspect présent. Et la vie éternelle, il faut bien comprendre que la vie éternelle, c'est beaucoup plus qu'une vie qui ne finit pas. Une vie qui ne finit pas, c'est une vie infinie. Mais ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle est une vie infinie, mais une vie infinie n'est pas nécessairement une vie éternelle. La vie éternelle, ça n'a pas de commencement et pas de fin. Donc si c'est éternel, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est éternel, qui est le Dieu éternel. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Donc je répète, ce n'est pas seulement une vie infinie. Il y a, on pourrait dire, une qualité de vie. C'est la vie de Dieu. Et c'est un sujet à soi tout seul, la vie éternelle. Il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui en parlent. Et ça implique la vie éternelle, c'est aussi la personne du Seigneur Jésus. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle, nous dit 1 Jean 5. Et la vie éternelle, c'est aussi, recevant la vie éternelle, nous sommes rendus capables d'avoir la connaissance de Dieu et nous avons aussi... Nous sommes rendus capables d'avoir communion avec Dieu. C'est simplement des petits aspects, mais qu'il faudrait développer. C'est un sujet à soi tout seul. Mais saisis la vie éternelle. Nous avons une bénédiction extraordinaire, immense. Et est-ce que nous l'avons compris? Que la vie éternelle que nous avons reçue, comparée à toutes les richesses du monde, on ne peut pas comparer. Et je pense à l'apôtre Paul qui dit en Romains 8, c'est un peu un autre contexte, alors j'en parle pas. Mais la vie éternelle, c'est, voilà, quand on la met côte à côte avec les richesses que le monde peut offrir, il n'y a pas de comparaison possible. Et si nous saisissons ce qu'est la vie éternelle, tout le reste pâlira. Et on voit aussi que la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé, donc il y a l'appel du chrétien, le chrétien a été appelé par Dieu pour la vie éternelle. Et ça, c'est aussi un sujet très profond, l'appel de Dieu. Non seulement Dieu nous a sauvés, mais Dieu nous a appelés. Ça c'est plutôt le côté... des conseils éternels de Dieu. Dieu nous a appelés. Il nous a choisis et il nous a appelés. Ça touche au conseil de Dieu. Et il est dit, pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Timothée, alors, on aimerait bien savoir dans un sens, mais la parole ne nous dit pas plus, donc on s'arrête là, on ne va pas faire trop d'interpolations. Mais il y a eu apparemment dans la vie de Timothée un moment où il a exprimé quelque chose devant beaucoup de témoins en rapport avec la vie éternelle, en rapport avec la foi en Christ et la vie éternelle qu'il avait reçue. Et donc ça nous montre aussi que dans le programme que nous sommes appelés à suivre, fuir, poursuivre, combattre, saisir, il y a aussi parler dans le fait qu'il y a eu une belle confession de fait devant beaucoup de témoins. Aussi, nos bouches doivent s'ouvrir pour exprimer ce que nous avons reçu dans le Seigneur Jésus.
sur saisir la vie éternelle, dont Éric vient de parler, on a dit, 1 Jean 5, la vie éternelle, c'est la personne même du Seigneur Jésus. Et j'aimerais lire des expressions de l'apôtre Paul en Philippiens, chapitre 3, verset 12. Non que j'aie reçu le prix ou que je sois parvenu à la perfection, mais je poursuis cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Ce qui donnait l'énergie, le courage à l'apôtre d'aller de l'avant, de chercher à saisir le Seigneur, c'est qu'il avait été saisi par le Christ. Il avait joui pour lui-même de cette révélation du Seigneur Jésus à lui-même, à son âme. Je poursuis cherchant à le saisir, vu que j'ai été saisi par le Christ. Et puis il ajoute, frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose. On voit cette énergie de l'apôtre qui réalise qu'il a encore à saisir, qu'il a encore des progrès à faire, mais que c'est le Seigneur qui l'a saisi.
Pour saisir la vie éternelle, encore faut-il en être occupé. De quoi sommes-nous occupés ? Colossiens nous dit, Colossiens 3, « Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » En Philippiens 4, au verset 8, « Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu en moi. » L'apôtre pouvait dire, toujours dans Philippiens, « Pour moi, vivre, c'est Christ. » Lui, il avait saisi la vie éternelle. Nous avons vu, Jésus-Christ est la vie éternelle. Il l'avait saisi et il le vivait. Il avait été crucifié avec Christ, il était ressuscité, il vivait de cette vie de ressuscité avec Christ, mort aux choses du monde. Il avait passé le Jourdain, il habitait dans le pays de Canaan, spirituellement parlant. Il était dans les choses célestes, il vivait de cela. Il ne retournait pas de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, où l'on ne fait que murmurer. Il ne peut pas en être autrement. Il était occupé des choses d'en haut. Les journées en 24 heures... On travaille 8 heures, on dort 8 heures, il reste 8 heures. De quoi les occupons-nous ?
À propos du combat, nous pourrions lire encore dans l'épître de Jude, verset 3. Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Encore dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 16. Verset 9. Une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. L'apôtre Paul, quand il s'adresse à Timothée, il lui parle donc du
du bon combat de la foi. Le bon combat. On peut souligner l'adjectif, c'est un bon combat. Nous avons lu dans 1 Timothée 1, verset 18, qu'il y a une bataille qui est en cours. Et c'est une bataille pour réduire à néant la vérité. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre contre la vérité. Il y a beaucoup d'adversaires. Les chrétiens, on a parlé de cupidité, les chrétiens cupides luttent pour avoir des richesses. Mais les chrétiens fidèles, ils luttent pour défendre la vérité. De quel côté sommes-nous ? Est-ce que nous sommes prêts à défendre la vérité ? Et l'apôtre dit que c'est un bon combat. Mais pour mener à bien ce bon combat, eh bien, dans les caractères de l'homme de Dieu, nous voyons que l'état de l'âme est essentiel. On ne peut pas s'engager dans ce combat sans que notre état intérieur, comme cela a été évoqué ce matin, soit un état intérieur qui plaît à Dieu, où nous nous jugeons nous-mêmes. Il nous est dit que nous devons avoir une bonne conscience. Eh bien, une bonne conscience, c'est un cœur honnête qui se juge régulièrement. Et donc, pour mener à bien ce bon combat, nous devons avoir cette bonne conscience, ce cœur honnête, mais qui se juge régulièrement, journalièrement. Et l'apôtre ajoute que c'est un combat à poursuivre. Et on ne peut pas s'arrêter dans ce combat. C'est un combat jusqu'à la fin. Et ce qu'on peut souligner encore, c'est que nous ne devons pas être indifférents. Quand l'apôtre Paul exhorte son fils dans la foi, Timothée, à combattre, au fond, il lui dit: tu ne peux pas être indifférent à ce combat pour la vérité, pour le maintien de la vérité. Et la question que nous pouvons nous poser, chacun, est-ce que nous sommes indifférents pour le maintien de la vérité ?
J'aimerais poser une question. On peut être étonné du fait que l'apôtre, qui a un certain âge, exhorte son enfant qui est relativement jeune, on l'a dit ce matin, à fuir, à poursuivre, à combattre, à saisir. Donc des exhortations, et on l'a rappelé, qui nécessitent une certaine énergie, mais bien sûr pas l'énergie de la chair. L'homme de Dieu est certainement caractérisé par la direction de l'Esprit de Dieu et la force qui vient de Dieu. Pourtant, on ne trouve, mis à part au début du chapitre 4, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, mais on ne voit pas la mention de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a une raison particulière en rapport avec cela ?
Alors, on a ensuite la belle confession du devant Ponce Pilate, du Seigneur Jésus. Il n'y en a qu'une de confession, on peut la lire. Jean 19, verset 36. Jésus répondit, Jean 18, verset 36. Jésus répondit: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate donc lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors, peut-être que certains d'entre nous, moi-même, on a pu s'interroger sur en quoi cette confession est si extraordinaire, si belle, et en quoi elle est un modèle qui demeure pour nous. Mais au fond, il me semble que ce qui se débattait à ce moment-là dans le prétoire et avec Pilate, c'est ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et c'était son problème. Il cherchait un motif pour condamner le Seigneur parce qu'il n'en avait pas. Et au fond, de quoi le Seigneur lui parle? Il lui parle de son royaume qui n'est pas de ce monde. Il lui parle du ciel. Et alors, c'est peut-être en cela que la confession est belle et qu'elle est à retenir. Le Seigneur ne s'est pas laissé impressionner par les conditions où il se trouvait. Il était au tribunal, le prétoire, il était proche d'être condamné à mort, il était accusé faussement. Et de quoi il parle à Pilate? Il lui parle du royaume, et du royaume qui n'est pas de ce monde, donc un royaume céleste, et puis que lui, il était venu justement pour rendre témoignage de ces choses. On voit aussi une confession tranquille, paisible, qui mêle l'interlocuteur, qui le place dans une position solennelle de savoir s'il écoute ou s'il n'écoute pas.
Dans ce verset 13, on voit la solennité des paroles de Paul à Timothée. Je t'ordonne, il y a cette autorité, mais il ordonne devant Dieu, qui appelle toute chose à l'existence, ou qui pourrait être aussi traduit par qui maintient en vie toute chose. Premier aspect. Et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate. Donc il lui ordonne, verset 14, de garder ce commandement sans tâche irrépréhensible, et on verra la suite. Mais donc on voit la solennité de ce que Paul dit à Timothée. C'est pas « je te conseille, je t'invite à », mais c'est « je t'ordonne devant Dieu et devant le Christ Jésus ». On le voit aussi ça en 2 Timothée 4, où il rajoute même, il y a un autre passage où il rajoute les anges. Bref, c'est dans la première ou la deuxième épître à Timothée où il rajoute les anges. Donc on voit la solennité devant Dieu. Et on voit les caractères de Dieu, un des caractères de Dieu qui appelle toute chose à l'existence ou qui maintient en vie toute chose. Il est question on avait dit que Dieu est le Dieu sauveur, et c'est aussi traduit par le Dieu qui est le conservateur de tous les hommes au verset 10 du chapitre 4. Et on voit donc dans cette pensée que ici Dieu qui appelle toute chose à l'existence ou qui maintient toute chose en vie, qu'il est le Dieu et le Créateur. Et Dieu non seulement est le Créateur, mais il est le Conservateur. Il crée et il maintient. Et donc si nous avons affaire à Dieu qui qui appelle à l'existence, et il n'y a que Dieu qui peut appeler à l'existence ce qui n'existait pas avant, et qu'il a ce caractère-là, et qu'il a aussi le caractère de celui qui maintient en vie. Il est le conservateur de tous les hommes, et spécialement des fidèles. Donc on voit quelle, à la fois la solennité et à la fois la ressource que nous avons en Dieu. Et on l'a dit, devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate. Et effectivement, cette belle confession devant Ponce Pilate, dont on a lu quelque chose, dont on a parlé, Jean 18, eh bien c'est aussi quelque chose qui nous encourage, parce que le Seigneur, il dit peu de mots. Cette belle confession, elle est donnée en deux versets. Et parfois, quand on veut rendre témoignage, quand on veut parler du Seigneur ou de Dieu à quelques personnes, peut-être qu'on parle beaucoup et parfois même beaucoup trop. Et on voit la confession du Seigneur devant Ponce Pilate, c'est absolument remarquable. Et vraiment, cette confession du Seigneur, elle est vraiment digne d'intérêt, de réflexion. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est roi, mais pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Il a des serviteurs prêts à combattre. Mais ils n'ont pas combattu parce que son royaume n'est pas de ce monde. Et il dit, maintenant mon royaume n'est pas d'ici. Un jour, son royaume sera sur la terre. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. Et quand il dit, moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, Jean 18, 37, on voit que le Seigneur, il rend témoignage qu'il est un homme, je suis né pour ceci, il est un homme, et quand il dit, je suis venu dans le monde, il est Dieu. Il n'y a personne d'entre nous qui peut dire, qu'il est venu dans le monde, ça sous-entend qu'il y avait une existence au préalable. Donc ça veut dire qu'il est Dieu. Et il est venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc dans ces deux versets, la confession du Seigneur devant Pilate, il y a une richesse dans ses paroles et un à-propos. Effectivement, comme on l'a dit, par rapport aux exhortations que Paul fait à Timothée. Mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous aussi, mais pour l'instant comme des étrangers. Un jour, il régnera, mais pas maintenant. Et en attendant, nous rendons témoignage du Seigneur qu'il est venu dans le monde, qu'il est né dans le monde, qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité.
Juste très courtement sur deux questions évoquées dans des conversations particulières. Premier point, le Saint-Esprit, il n'en est pratiquement pas, presque pas parlé dans cet épître. Il y a bien Dieu justifié en esprit. Mais par contre, alors, il y a les « je t'ordonne », il y a l'ordonnance. Alors bien sûr, on a besoin du Saint-Esprit pour être guidé, fortifié. Mais disons que simplement, l'accent dans cet épître est mis sur la responsabilité. On a des choses semblables, par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, où le Saint-Esprit, il en est question tant et plus, et dans les Colossiens, pas du tout. Et on a... Disons que dans les Colossiens, c'est un autre aspect, il est présenté, le Christ en vous, vous êtes accompli en lui, et alors notre position est telle dans le Christ Jésus qu'effectivement le Saint-Esprit n'est pas mentionné. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est inutile, mais ça veut dire que c'est un autre aspect des choses, et ça insiste sur la position dans laquelle nous sommes. Bon, l'autre point, effectivement, pourquoi ici, au verset 13, il est question de la belle confession devant Ponce Pilate. Il n'a pas été, d'ailleurs, question de la confession devant le Sanhédrin. Mais la confession devant le Sanhédrin, c'était, on dirait, presque dire, une menace. Jusqu'à ce que le Fils de Dieu vienne, je prends les termes exacts, c'est je vous dis dorénavant que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel, ce qui était à la fois une menace et en quelque sorte et à la fois un avertissement très solennel que toute leur autorité ne valait rien du tout. Mais c'est pas du tout ce que Paul a à cœur de présenter là dans Timothée. C'est au contraire toute la dignité, l'élévation de celui qui est venu, c'est-à-dire qui a toute la dignité de fils de Dieu. Et alors on voit toute cette belle confession de quelqu'un qui est le représentant d'un tel Dieu. Et alors après, l'élévation est d'autant plus accentuée que s'il est question de l'apparition au verset 14, c'est pas l'apparition tellement en jugement, mais c'est le bienheureux et seul souverain, roi de ceux qui règnent, seigneur de ceux qui dominent, qui montre l'apparition et qui possède l'immortalité, qui habite la lumière et inaccessible. Ça nous met en relation avec c'est à la fois solennel et à la fois d'une très haute élévation. Ça montre, bien sûr, on a insisté sur le fait d'être serviteur comme des esclaves. C'est un côté des choses, oui, mais l'autre côté des choses, on est esclave et serviteur du bienheureux et seul souverain de roi de ceux qui règnent et seigneur de ceux qui dominent.
Alors je voudrais poser une question excusez-moi si je reviens un petit peu en arrière, entre un homme de Dieu, verset 11 de 1 Timothée 6, et l'expression dans les Éphésiens, au chapitre 4, où il nous est parlé de l'état d'homme fait. Alors, la question que je pose, excusez-moi si vous estimez que la question est saugrenue, mais est-ce qu'il y a une différence, et quelle est la différence entre un homme fait, un homme accompli, et un homme de Dieu ?
J'ai pas toutes les références ici, mais homme de Dieu, je crois que c'était une expression typique dans l'Ancien Testament et qui parlait d'un prophète. C'était un homme de Dieu, c'était un prophète qui était représentant de Dieu et qui venait parler de la part de Dieu. Et alors c'est bien, en fait, c'est bien. Un peu le sens ici dans Timothée, c'est si tu veux être un homme de Dieu, un représentant de Dieu et parler de sa part, il faut commencer par poursuivre la justice, la paix, la foi et l'amour. Bon, ça, je pense que c'est ce côté-là, homme de Dieu, plutôt spécialement en rapport prophète envoyé de la part de Dieu. Bon, dans le L'homme nouveau est dans Éphésiens, c'est un autre sujet, c'est le fait qu'il y avait des juifs, peuple élu, et puis il y avait des nations qui étaient sauvées, et qui, alors qu'ils étaient ennemis, il s'agit c'est maintenant, il y a une nouvelle sorte d'homme qui a été créé, où ils sont réconciliés devant Dieu. Mais il n'y a pas le. Il me semble qu'en Éphésiens, il n'y a pas du tout ce côté de prophète parlant de la part de Dieu.
Dans les versets 13 et 14 qui sont devant nous, donc on a vu la. Que Paul ordonne à Timothée de garder le commandement sans tache, irrépréhensible, et il dit « jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ ». Quand on lit dans le Nouveau Testament les expressions qui nous parlent du retour du Seigneur Jésus, le retour à venir du Seigneur Jésus, on a des expressions différentes. Et on comprend en fait que le retour prochain du Seigneur Jésus, il va avoir lieu en deux phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, que l'on voit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, où le Seigneur va venir dans le ciel, sur la nuée, et va nous appeler pour qu'on le rejoigne sur la nuée et qu'on soit avec lui pour toujours. Et donc cette première phase, l'enlèvement, c'est nous les croyants qui sommes ravis de la terre, enlevés de la terre pour être avec le Seigneur et pour être éternellement avec le Seigneur. Et ça, c'est la bienheureuse espérance de tous les croyants. Et on pourrait dire que quel que soit notre niveau de maturité, tous les croyants auront le privilège de participer à cet événement, le Seigneur qui nous prend auprès de lui pour être avec lui pour toujours dans la maison du Père. Et là, nous sommes tous avec le même privilège d'être dans sa présence. C'est l'espérance que nous avons devant nous. Et il y a la deuxième phase du retour du Seigneur, c'est qu'une fois qu'il nous aura pris auprès de lui, quelque temps après, il va revenir sur la terre pour établir son règne. Et le Nouveau Testament emploie au moins trois mots pour désigner ce deuxième événement, ce deuxième acte du retour du Seigneur. Il y a le mot ici, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a en 2 Thessaloniciens 1, verset 7, il est question de la révélation du Seigneur Jésus. Et il est aussi question de la manifestation du Seigneur Jésus. Par exemple, Colossiens 3, verset 4. Et ces trois mots désignent, on va dire, la même chose, c'est le retour du Seigneur avec nous, qu'il aura au préalable pris auprès de lui pour venir régner sur la terre. Manifestation, apparition, révélation. Et là, en fait, quand il va revenir avec nous sur la terre, il va être vu de tous les hommes qui seront sur la terre. C'est l'apparition, la révélation, la manifestation. Ça montre que l'aspect visible de la chose. Et nous allons l'accompagner avec lui en gloire. Et en fait, ce deuxième acte du retour du Seigneur, c'est toujours celui qui est associé aux exhortations que nous recevons quant à notre responsabilité. C'est-à-dire les privilèges que nous avons, quand il est question du retour du Seigneur en rapport avec nos privilèges, c'est l'enlèvement et nous allons tous avec lui pour être auprès de lui. Mais quand il s'agit de notre responsabilité dans le service, dans le témoignage, eh bien, l'aspect du retour du Seigneur qui est mis en avant, ce n'est pas celui de l'enlèvement, mais c'est celui de l'apparition ou de la révélation ou de la manifestation. Parce que quand le Seigneur va revenir sur la terre avec nous, nous allons l'accompagner en gloire et il va, ça sera aussi le temps des récompenses, des rétributions, et nous serons manifestés en relation avec la fidélité que nous avons eue sur la terre. Et sous ce deuxième aspect, la manifestation avec le Seigneur en gloire sur la terre, on pourrait dire nous ne sommes pas tous, nous aurons des parts différentes les uns des autres. C'est en fonction de la fidélité que nous aurons eue sur la terre. Il y aura les récompenses en fonction de notre fidélité. Et je dis bien fidélité. Ça ne veut pas dire que le frère le plus en avant soit le frère le plus fidèle. Non. Il y aura peut-être et certainement des sœurs dont on n'aura jamais entendu parler, très discrètes, cachées, qui seront davantage récompensées que des frères qui auront été en vue pendant toute leur vie. Donc c'est l'apparition du Seigneur, c'est le moment où il va être manifesté avec nous, et ça sera aussi le moment des récompenses, et les récompenses sont liées à la fidélité. Et c'est pour ça que ici l'exhortation, l'ordonnance, elle est mise en lien avec l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toujours le cas quand il s'agit de la responsabilité, l'aspect du retour du Seigneur et celui de l'apparition.
Juste un verset pour au sujet de ce qu'Éric vient de dire concernant notre responsabilité qui est liée avec l'apparition du Seigneur plutôt que sa venue en grâce. Donc nous avons dans 2 Thessaloniciens 1, verset 10, il est dit qu'il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Le Seigneur sera admiré dans ceux qui auront cru, dans ceux qui l'accompagneront. Alors pour ce qui est en rapport avec notre responsabilité, nous pouvons le voir aussi dans Apocalypse 19. Quand le Seigneur reviendra, là il est dans ce passage d'Apocalypse 19, il viendra en jugement, et il est dit au verset 14 que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtu de fin lin blanc et pur. Et dans ce même chapitre 19, il est précisé au verset 8, au sujet de la femme de l'agneau, qu'il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur. Et il est précisé, car le fin lin, ce sont les justices des saints ou les justes actes des saints. C'est ce que l'Esprit aura produit dans les saints sur la terre. Donc c'est ce qui est lié avec notre responsabilité. Qu'est-ce que nous aurons fait pour le Seigneur et tout ce que nous aurons fait pour le Seigneur, pour lui, par l'Esprit, ce sont comme des fils de lin dont on sera vêtu pour quand on suivra le Seigneur dans son apparition. Et ce côté-là, c'est ce qui est en vue à l'apparition du Seigneur, les justes actes des saints qui sont pour la gloire du Seigneur, non pas pour la nôtre, mais pour la sienne.
Dans cette épître, il y a plusieurs expressions au sujet de Dieu, au sujet des caractères de Dieu, des attributs de Dieu qui sont, il me semble, vraiment remarquable. Et là, dans les versets qui sont devant nous, on en a quelques-uns, mais on pourrait peut-être en mentionner quelques-uns à partir du début de l'Épître. chapitre 1, verset 1, il est question du Dieu sauveur, Dieu notre sauveur. Verset 17 du chapitre 1, il est parlé de Dieu comme le roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu. Il est le roi des siècles, il domine sur les temps, sur le temps. Il est incorruptible, il est invisible et il est le seul. Verset 5 du chapitre 2, il est dit « Dieu est un ». Il est le Dieu unique. Il est un. Verset 15 du chapitre 3, il est le Dieu vivant. Chapitre 10 du verset 4, le Dieu vivant qui est le conservateur de tous les hommes. Et dans les versets qui sont devant nous au chapitre 6, on a vu verset 13, il est le Dieu qui appelle toute chose à l'existence ou qui maintient en vie toute chose. Et dans les versets 15 et 16, il nous est dit aussi, il y a des expressions qui sont vraiment rarement employées pour parler de Dieu. Verset 15, il est appelé le bienheureux et seul souverain. Le souverain, c'est celui qui possède le pouvoir, celui qui détient le pouvoir. Et il est le bienheureux et seul souverain. Et le mot bienheureux, qu'on retrouve aussi d'ailleurs au chapitre 1, je ne l'ai pas cité, chapitre 1, verset 11, il est appelé le Dieu bienheureux. Et verset 15, il est donc le bienheureux, il a le bonheur en lui-même, et être dans sa présence, c'est le bonheur pour nous. Et il est appelé aussi le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent. On a vu qu'il donne des autorités, mais il est au-dessus de ces autorités. Et verset 16, il lui seul possède l'immortalité, il habite la lumière inaccessible et aucun des hommes ne l'a vu ni ne peut le voir. Et mentionne verset 17 aussi, il est le Dieu qui donne toutes choses. Et c'est absolument remarquable de voir toutes ces choses qui sont dites de Dieu dans cette seule épître. Et il me semble que c'est des choses vraiment élevées et qu'on retrouve peu ailleurs. Et peut-être aussi que c'est pour mettre en contraste qui est Dieu par rapport à toutes les prétentions à la connaissance que pouvaient avoir les hommes. À la fin de l'épître, il est question de la connaissance faussement ainsi nommée des hommes. Mais quand on a le privilège de connaître un tel Dieu qui a tous les attributs, tous les caractères qui ont été cités, qu'est-ce que les hommes peuvent apporter à ceux qui connaissent un tel Dieu ?
On peut sans doute dire aussi que Timothée pouvait être encouragé par toutes ces expressions que nous avons vues. On voit dans la deuxième à Timothée que l'apôtre va dire « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Timothée avait donc sans doute cette tendance à peut-être rester un peu en arrière par rapport à ce qui lui avait été confié. Le don de grâce qu'il avait reçu devait être ranimé et exhorté, en tout cas à cela. Et le fait de placer devant Timothée toutes ces gloires, on peut dire, de Dieu, la puissance qui était là, on peut dire, à sa disposition, eh bien, Timothée devait être, on peut dire, très encouragé par cela. Et nous pouvons l'être nous aussi, nous appartenons au Seigneur, nous sommes du côté de celui dont les caractères nous sont donnés ici, pour être véritablement les témoins de ce Dieu bienheureux.
Timothée était son vrai enfant de foi, à Paul. Et maintenant, ce, comment on peut dire, ce père dans la foi donne un ordre solennel à cet enfant. Et il prend encore deux témoins pour donner cet ordre. Il dit, devant, déjà, d'abord il dit que Timothée a déjà fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Alors déjà, il y avait une vie de foi qui se voyait, qui était positif, et maintenant, en plus, là encore, en plus de ça, il lui donne maintenant, encore même dans le temps à venir, dans le temps difficile qu'il y a, quand il y a tellement de contradictions et de le vent qui va au contraire, il dit, je t'ordonne devant Dieu qui appelle toute chose à l'existence. Alors, devant Dieu, il ne le met pas à la poursuite pour être son successeur, non, il le met devant Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu, alors je te mets devant Dieu que tu veux être un homme de Dieu en relation avec ce Dieu qui met toutes choses à l'existence, qui t'a mis à l'existence, à toi, mais toutes choses. Il est le Dieu souverain, éternel, et qui sans lui n'existe rien. Tu es devant ce Dieu qui met toutes choses en existence. Tu dépends de lui, et dans cette dépendance de lui, tu peux témoigner devant ce Dieu. Tu peux témoigner de lui qui appelle toutes choses à l'existence. Déjà, d'abord, déjà l'appel a été déjà mentionné dans le verset. D'abord, il a été appelé dans cette vie éternelle, cette vie qui vient de Dieu, de ce Dieu qu'il a appelé dans cette vie éternelle. Maintenant, il le met devant ce Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire là. Il y a cette relation avec ce Dieu éternel. Et encore, pas seulement devant ce Dieu qui est pour l'homme normal, il est inaccessible, on ne le voit pas, mais ce Dieu, il s'est révélé dans le Fils de Dieu. C'est pourquoi il le met encore et devant le Christ Jésus, devant celui qui est la manifestation de la révélation entière de Dieu sur cette terre, et qui est maintenant son Seigneur et notre Seigneur. Je le mets devant ce Dieu éternel, devant cette manifestation de Dieu, Dieu révélé en chair. Je te mets devant ce Dieu éternel, ce Dieu manifesté en chair, pour que tu gardes, il met encore comme modèle, le grand modèle devant lui, c'est le Seigneur Jésus, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate. Déjà, il parlait que Timothée a fait la belle confession devant beaucoup de témoins, mais ici, on voit le plus grand, celui qui a fait la plus grande, belle confession, et devant le plus méchant qu'il a fait mourir, qu'il a jugé injustement. Devant celui-là aussi, il avait la belle confession que tu gardes ce commandement. Alors, je voulais seulement exprimer combien c'est solennel, ce commandement qui est aussi valable pour « mets-toi au », on a rappelé « mets-toi au homme de Dieu ». Alors, si nous voulons aussi être des hommes et femmes, le frère a mentionné que c'est en neutre, par ailleurs en allemand on l'utilise en neutre, et ici que nous pouvons avoir ce bon témoignage aussi devant ce monde, en étant en relation avec Dieu et en prenant comme modèle le Seigneur qui a tenu aussi cette belle confession.
Un tout petit détail, le seul souverain, roi de ceux qui règnent, seigneur de ceux qui dominent, c'est roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est une expression qui est utilisée pour le Seigneur Jésus, notamment dans l'Apocalypse, Mais quand il est dit qu'il seul possède l'immortalité qui habite la lumière inaccessible, c'est Dieu lui-même, c'est pas le Seigneur Jésus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dans les épîtres de Jean, dans les écrits de Jean, il y a une confusion volontaire entre Dieu le Père et le Seigneur Jésus. C'est Dieu dans tous les cas.
Juste relever ces expressions, Dieu est immortel. Expression qui nous dépasse. Il ne peut pas être touché par la mort. Dieu est immortel, Dieu est incorruptible. On l'a lu dans le chapitre 2. Incorruptible, ne peut pas être touché par la corruption, ne peut pas se dégrader. Dieu est immuable, Dieu est le même. De toute éternité, d'éternité en éternité, je suis le même. Incorruptible, le Seigneur, son corps. La parole nous précise que le Seigneur a connu l'incorruptibilité. Il n'a pas été touché par le péché. Incorruptible veut dire non touché par le péché. Invisible, Dieu est invisible. Il a été vu en Christ. C'est sa parfaite manifestation. Mais Dieu est esprit. Dieu est invisible. Il habite la lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. Nous ne pouvons pas supporter la lumière dans laquelle Dieu se trouve. C'est toutes des choses qui nous montrent la grandeur de Dieu.
Et à la mesure de ce qui vient d'être dit, je voudrais juste relever ces deux mots du verset 14, sans tache, irrépréhensible. Dieu ne rabaisse pas la barre. Le niveau qui est placé devant nous, c'est son niveau, avec toutes les ressources de l'œuvre du Seigneur.
Il y a là aussi un grand encouragement pour le serviteur qui fait face aux difficultés. Il a l'exemple, le modèle, l'exemple du Seigneur Jésus qui a été le témoin fidèle, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, qui a été mis à mort. Mais celui-là qui a été le témoin fidèle, qui a été mis à mort, eh bien, il va revenir et il va apparaître. Et Dieu va montrer son apparition. Ça sera le plaisir de Dieu de montrer son Fils aux hommes, au monde qu'il a crucifié. Mon Fils que vous avez crucifié, que vous avez mis à mort, voilà, il est maintenant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est Dieu qui va montrer l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, à sa suite, avec lui, dans notre faible mesure, nous sommes aussi appelés à être des témoins au milieu d'un environnement difficile et contraire. Mais n'est-ce pas un encouragement de voir que le Seigneur Jésus a été le témoin fidèle, qu'il a été mis à mort, mais Dieu va montrer bientôt qu'il était l'homme qui avait sa pleine approbation. Il va le montrer comme le roi des rois et seigneur des seigneurs, et nous avec lui. Quel encouragement pour nous, alors que nous sommes dans des situations difficiles, contraires, de voir en quelque sorte ce qui est la part du Seigneur et ce qui sera notre part avec le Seigneur.
Bon, sur les richesses, on a déjà traité la question ce matin, et en particulier sur il faut faire la distinction entre ce qu'on a vu, ce qui est dans les premiers versets, qui est plutôt le fait de verset 9, de vouloir devenir riche quand on l'est pas, ce qui montre qu'on n'est pas, on n'a pas le contentement qui est un grand gain. Et puis le verset 17, c'est ceux qui sont riches. Pourquoi ils sont riches? il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire dans ces conditions. Alors, la première chose, c'est être l'accepter, mais l'accepter comme venant de Dieu. C'est Dieu qui donne toutes choses pour en jouir. Il faut là aussi, même en cela, il ne faut pas dire « je me suis acquis, j'ai réussi, je suis quelqu'un de spécial parce que j'ai réussi mieux que les autres ». Non, c'est Dieu qui donne. Et il donne toutes choses richement pour en jouir. Alors, bon, on pourrait débattre sur la question des richesses injustes de Luc XVI, mais peut-être que c'est une autre question. Et donc, ayant ces richesses, bah, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut bonnes œuvres, mais bonnes œuvres au sens le plus large. Donc, ça veut dire les libéraux s'amasser un bon trésor. Quand il y a ces richesses, il y a ce passage de Hébreux 10 dont on a souligné ce matin que c'est l'incertitude des richesses, qu'elles peuvent disparaître. Mais ce n'est pas seulement qu'il y a une incertitude et qu'elles peuvent disparaître, mais dans les Hébreux 10, verset 34, il était question que vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Alors, bien sûr, c'était la persécution, bien sûr, on dira qu'aujourd'hui, il n'y a pas la persécution dans nos pays, mais il ne faut pas discuter là non plus, il faut reconnaître ce que dit la parole, et non seulement on peut tout perdre en peu de temps, mais on peut être l'objet de la méchanceté de gens, de l'enlèvement de nos biens. Et la réponse dans Hébreux 10, de la réponse à l'enlèvement de nos biens, c'est y a le côté vous avez accepté avec joie, c'est disons que on a de la peine à on aurait de la peine à faire pareil, nous, parce que accepter avec joie l'enlèvement de nos biens, c'est quand même peu ordinaire. Mais la réponse, c'est le juste vivra de foi. Il n'y a pas d'autre réponse. Et alors, au fond, l'important, c'est justement, c'est pas de s'occuper de ses richesses, c'est de saisir ce qui est vraiment la vie. Alors, c'est différent de verset 12, de saisir la vie éternelle. Je le comprends que comme saisir ce qui est vraiment la vie, c'est-à-dire saisir ce qui vaut le coup d'être vécu. Alors, bon, on peut revenir encore sur ces sujets-là, mais je voudrais juste dire encore quelques mots sur le verset 20. Fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. Alors, bon, il est probable qu'à l'époque, il y avait des gens qui offraient une connaissance qu'ils estimaient être supérieure à celle du christianisme. La parole ne donne pas les détails sur ces gnostiques, sur ces connaissances-là. Elle ne donne pas les détails parce qu'elle ne veut pas nous occuper de ça et parce qu'il n'y a pas à nous occuper du mal. Par contre, dans le jour d'aujourd'hui, alors les discours vains et profanes, il y en a tant et plus, y compris dans la chrétienté. Et la chrétienté qui maintenant emboîte le pas de l'écologie et fait de l'écologie une idole, on est en plein dans les discours vains et profanes. Et puis opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. Alors c'est-à-dire que ceux qui prétendent connaître des choses supérieures, qui prétendent en savoir plus que les autres, en réalité, ils s'opposent à la vraie connaissance. La connaissance qui est selon la parole de Dieu, Et c'est la seule façon d'être, de ne pas être vain et profane, c'est bien d'être conforme à la parole de Dieu.
On a parlé tout à l'heure juste du Dieu invisible, verset 16. Aucun des hommes n'a vu. Aucun des hommes n'a vu Dieu. Tu ne peux voir ma face et vivre. Parole de Dieu à Moïse, je crois. Tu ne peux pas voir ma face. Je te ferai voir par derrière, par les voies de Dieu envers nous. Mais personne n'a vu Dieu. Nous ne verrons pas Dieu. Je pense que c'est important à dire. Dieu est le Dieu invisible, incorruptible, invisible, seul Dieu. Nous ne le verrons pas. Mais nous le verrons en Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est aussi des pensées très encourageantes. Quand on sera, le ciel, ça sera quoi? Ça sera d'être avec Christ. Ça sera de voir le Seigneur, de contempler celui qui aura été l'auteur de notre salut éternel. Quelle grâce de savoir cela. Et en lui, pleine manifestation de Dieu, tous les caractères de Dieu ont été vus en lui. Nous le verrons, nous verrons Dieu dans sa face. Que nous puissions le voir par la foi, le contempler, mais Dieu reste un Dieu invisible qui habite la lumière inaccessible.
Ces doxologies, est-ce qu'ils touchent nos cœurs? Est-ce que si Dieu il nous est présenté d'une telle façon, est-ce que nous pouvons vraiment aussi dire Amen? Ici, auquel soit honneur et force éternelle, Amen. Oui, c'est que ce soit ainsi. On confirme et affirme ce que Dieu, par son esprit, nous met devant nos cœurs et notre conscience. Et ici, il met, dans chaque doxologie, il met sa nature, tout ce qu'il veut nous révéler devant nos cœurs. Et ici, c'est des expressions qui sont insondables, qui nous parlent de ce Dieu, comme il a été dit, qu'on ne peut pas voir, mais qui s'est manifesté, qui s'est révélé dans son Fils. Ce Dieu saint qui habite cette lumière inaccessible, ce Dieu, il s'est montré dans sa sainteté, dans son Fils qui est devenu homme pour nous révéler Dieu, cette nature de Dieu. Et alors, et comme homme de Dieu, nous sommes en relation avec ce Dieu qui voulait se révéler et qui maintenant, nous sommes en relation avec lui pour être ses témoins ici sur cette terre. Et c'est ça ce qu'il rappelle à Timothée, que lui, comme homme de Dieu, qu'il garde ce bon commandement, qu'il garde la foi juste en vue de l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui reviendra sur cette terre dans toute sa gloire. Nous le connaissons, nous voyons déjà sa gloire dans le ciel et nous sommes transformés en le regardant dans cette gloire, de gloire en gloire. Et ainsi, en vue de ce que un jour Dieu manifester cette gloire sur cette terre en voyant son Fils sur cette terre comme dans sa gloire, et nous participons à cette gloire. Si nous pensons à ce moment que nous allons réapparaître avec le Seigneur en gloire, et sa gloire resplendira aussi avec nous. Sa gloire sera vue en nous aussi. Si nous pensons à ça, est-ce que ça ne nous encourage pas à vraiment avancer d'une telle manière que nous obéissons à Dieu et que nous voulons être vraiment des témoins comme hommes de Dieu pour lui? Et c'est C'est pourquoi il présente ainsi ce bon témoin que du garçon commande de son tâche irresponsable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux et seul souverain, celui qui est au-dessus de tout, on avait déjà mentionné, celui-là qui est au-dessus de tout, il va montrer cela. Et c'est Dieu ici qui est mentionné avec ces titres, qu'il va donner à son Fils. Le Dieu d'éternité, il est le seul souverain, et il va donner tout, ou il a déjà donné tous ses pouvoirs à son Fils, pour que son Fils le montrera sur cette terre, quand il régnera sur cette terre. Alors le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent, le seigneur de ceux qui tuent, lui montrera au temps propre. Et ce temps propre, ça sera quand il enverra son Fils comme roi de rois et seigneur de seigneurs sur cette terre, et nous avec lui. Alors si nous pensons à cette glorieuse apparition du Seigneur, est-ce que ça ne nous encourage pas de vivre d'une manière digne pour lui, qui nous serons un jour avec lui sur cette terre? Et alors, si nous pensons à ça, Dieu il va le faire un jour, alors qui se présente lui, qui seul possède l'immortalité, comme ça a été dit, cette immortalité déjà en ressuscitant le Seigneur, et maintenant on va voir celui, le Seigneur ressuscité et glorifié, revenir sur cette terre, alors il montrera cette immortalité et celui qui habite la lumière inaccessible, il va descendre sur cette terre comme ce soleil brillant qui vient sur cette terre, comme nous le voyons en Malachie, ce soleil qui vient. Alors, ça nous rend donc dans une adoration qui se voit dans cette doxologie, à lui auquel soit honneur et force éternelle. Amen.
Auquel soit honneur et force éternelle. On comprend que l'apôtre parle au verset 17 du présent siècle. Il vient de placer les gloires de celui qui est éternel. Et puis l'apôtre doit revenir à ce sujet des richesses des riches, qui dans un sens... Certains dans ce monde ont une domination, mais qui ne devrait pas être chez les croyants. Il a parlé du Seigneur, de ceux qui dominent. Et on sait bien que dans le livre de Daniel, par exemple, et on trouverait d'autres passages, Belteshazzar, il nous est dit au verset 17, cette sentence, donc verset 17 du chapitre 4 de Daniel, cette sentence est par décret et par le décret des veillants et la chose par la parole des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut, etc. Et puis cette domination, on la retrouve encore dans ce chapitre à plusieurs reprises. Il y en a un seul qui domine. Et sans doute que Paul insiste ici dans ce sens pour dire que les richesses de ce monde n'ont aucun cours, on peut dire, dans le royaume de Dieu. Et ceux qui les possèdent, eh bien, ce n'est que pour un court temps, présent siècle. C'était le présent siècle pour les riches de cette époque. C'est le présent siècle pour les riches d'aujourd'hui. Et aucune domination, et en particulier dans la maison de Dieu, ne peut être associée, on peut dire, à cet aspect de la richesse. Qu'il ne soit pas hautain. Quel état de ce roi dans Daniel ? Qu'il ne soit pas hautain, voilà ce que produit, on peut dire, ce qui risque d'être produit par ses richesses. Qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses. Il manquerait donc la piété dont on a parlé, avec cet aspect en particulier de la confiance. Et puis l'incertitude. L'incertitude. Alors que l'apôtre a placé celui qui ne change pas devant les yeux de Timothée. Quel contraste entre sans doute les éléments sur lesquels l'apôtre aurait aimé insister davantage, mais ils sont là pour placer devant la responsabilité de ces riches, pour les mettre devant leur responsabilité en regard de ce qui est éternel et glorieux.
Il faut dire que dans ces versets 17 à 19, il y a trois dangers en rapport avec ceux qui sont riches dans le présent siècle. Le premier, qu'il ne soit pas hautain, il y a le danger d'être arrogant. Et l'arrogance, c'est le contraire de l'humilité. Donc, danger pour ceux qui sont riches d'être arrogants, de se placer au-dessus des autres parce qu'ils sont riches. Et comme il a été dit tout à l'heure, ils oublient que c'est Dieu qui a donné toutes choses. Deuxième danger, après l'arrogance, c'est se confier dans l'incertitude des richesses. C'est le danger de ne plus être dépendant de Dieu. De penser qu'on peut se passer de Dieu parce qu'on a les moyens, les ressources nous-mêmes. Et donc si j'ai les ressources, les biens à ma disposition, j'oublie Dieu, je pense que je n'ai plus besoin de lui. C'est le deuxième danger. Le troisième danger, on le voit en quelque sorte dans les exhortations, qu'il fasse du bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, qu'il soit prompt à donner, libéraux. Le troisième danger, c'est d'être égoïste. Et le contraire, c'est la générosité. Ceux qui sont riches sont exhortés à être généreux. Et dans la générosité, ce n'est pas dit ici, mais on peut citer les paroles du Seigneur en Matthieu 6, quand il dit « Quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. » Ou l'inverse, je retrouve Matthieu 6. « Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. » Mais toi, quand tu fais l'aumône, verset 3, « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Si ceux qui sont riches sont appelés à être généreux, libéraux, que cette générosité, cette libéralité se fasse dans la discrétion, dans le secret. Et c'est aussi un caractère du monde, mais de notre propre cœur naturel, c'est que quand on est généreux, on aime bien que ça se voit, que ça se sache. Mais la piété, elle exerce la libéralité, la générosité dans le secret. Il y a aussi peut-être une remarque à faire sur l'expression « qu'il fasse du bien » à la fin du verset 17 et verset 18 « qu'il soit riche en bonnes œuvres ». En fait, il y a ceux qui connaissent le grec expliquent que ici, comme dans d'autres passages, notamment en Galates 6, où il est question de faire le bien ou faire du bien, il y a deux pensées. Pensée de faire du bien, c'est-à-dire c'est la bienfaisance. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui manque de quelque chose, je lui fais du bien en lui communiquant quelque chose. Je le soulage, je lui fais du bien. Et faire le bien, ou ici, quand il est dit au verset 18 qu'il soit riche en bonnes œuvres, c'est les bonnes œuvres qui sont bonnes en elles-mêmes, pas forcément qui sont bienfaisantes, mais qui sont bonnes en elles-mêmes dans le sens qui sont agréables à Dieu. Peut-être pas bien comprises des hommes autour, mais qui sont appréciées par Dieu. Donc c'est deux pensées différentes. À la fois la bienfaisance vis-à-vis des autres qui sont dans le besoin, mais à la fois les bonnes œuvres, celles qui sont agréables à Dieu et peut-être incomprises. Dans les versets 20 et 21, on a ces exhortations finales. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié. La note dit garde le dépôt. C'est ce que Dieu, le Seigneur, confie. Dieu nous confie à tous quelque chose. Alors, pas seulement personnellement, mais collectivement. Il nous confie quelque chose et nous sommes appelés à le garder. Et de nouveau, on voit le verbe « fuir ». On a mentionné plusieurs fois « fuir » tout à l'heure. Et là, il y a une autre fuite, les discours vains et profanes. Et donc, effectivement, dans le monde, il y a beaucoup de beaux parleurs, de gens qui sont brillants pour parler. Mais ici, il est dit des discours vains et profanes, que ça n'a pas de valeur et ça n'intègre pas Dieu. Et effectivement, la connaissance faussement ainsi nommée. Et ça, ça représente toute la prétention des hommes à savoir. Et dans tous les domaines aujourd'hui, dans bien des domaines, presque dans tous les domaines, il y a cette prétention des hommes à connaître mieux que ce que dit Dieu dans la Bible, par exemple. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut fuir. Fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. Et on pourrait dire qu'avec toutes ces exhortations qui pèsent sur les épaules de Timothée, il devait sentir sa faiblesse, sa responsabilité et certainement sa faiblesse. Mais il y a une ressource pour faire face à tout cela et c'est que la grâce soit avec toi. Si nous avons des responsabilités, de grandes responsabilités, il ne faut pas les atténuer, les amoindrir, mais il y a toujours la ressource pour faire face à ces responsabilités et c'est la grâce de Dieu. Et Timothée, comme nous, avait bien besoin de cette grâce pour faire face à ce qui lui était confié.
Je voudrais revenir sur l'expression « afin qu'il saisisse ce qui est vraiment la vie ». On a prié au début de ces moments pour la jeunesse en particulier, nos jeunes amis, et nous désirons que, et nous sans doute repasser ces expressions dans notre cœur, c'est qu'il saisisse ce qui est vraiment la vie. La vie chrétienne. Et pourrions lire une expression dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À la fin du verset 10. Que nous vivions ensemble avec lui. Saisir ce qui est vraiment la vie, c'est vivre avec lui et vivre pour lui. Et pourrions peut-être relire les instructions du Seigneur sur la signification que perdre sa vie. On peut gagner sa vie sur cette terre, la vie chrétienne, mais on peut perdre sa vie. Dans Matthieu 10, il y a des six fois, il est parlé de perdre sa vie. Matthieu 10, verset 39, donc il y a des nuances dans les expressions. Celui qui aura trouvé sa vie, c'est-à-dire qui vivra pour lui-même, eh bien, il la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Dans le chapitre 16, verset 25, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie dans ce monde, tournera le dos à ce monde. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. On peut gagner sa vie dans ce monde, mais spirituellement, on peut perdre sa vie. » Encore dans, je crois que c'est Marc, Marc, chapitre 8, verset 35, verset 34, « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive, car quiconque voudra sauver sa vie dans ce monde, la perdra, et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Évangile de Luc. Je crois que c'est chapitre 9, verset 23, il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera, car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se détruit lui-même ou se perd lui-même ? » Luc, je crois que c'est 17. Verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra la gagnera. » Et enfin, je crois que c'est le sixième, c'est Jean 12. C'est le choix pour nos jeunes amis. Verset 25, « Celui qui affectionne sa vie dans ce monde la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle, bien si quelqu'un me sert, qu'il me suive. »
Cantique 166. 174, verset 3. Strophe 2. Le 55.